VOA Afrique,
le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir et bienvenue à l'édition du mercredi 24 juin 2015. À la une ce soir.
Togo, le président Fornia Singbe réapparaît en public, mettant ainsi fin aux rumeurs sur son état de santé.
Nigeria, les insurgés islamistes font de nouvelles victimes dans le nord-est du pays.
Au Burundi, le gouvernement rejoint le dialogue politique.
Nous parlerons aussi des révélations de Wikileaks, selon lesquelles les États-Unis ont placé sous écoute le président français François Hollande et ses deux prédécesseurs.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Nouvelle victime de l'insurrection islamiste dans le nord-est du Nigeria. Plus de 40 personnes ont été tuées en début de semaine par des membres présumés de Boko Haram. D'après l'AFP, les djihadistes auraient attaqué les villages de Debiro-Biou et Debiro-Haoul dans l'état de Borno. Les assaillants ont ouvert le feu sur la population, ont pillé des maisons, les greniers à céréales et des pharmacies.
Par ailleurs, les militants de Boko Haram ont tué au moins 5 personnes aujourd'hui près de Bosso, dans le sud du Niger, selon les services de sécurité.
Fornia Singbe réapparaît en public. Après une absence médiatique longue d'une vingtaine de jours qui alimentait des rumeurs sur son état de santé, le président togolais a été montré à la télévision publique mardi à la suite de 2 audiences au palais présidentiel de Lomé. Compte rendu, Jacques Aristide.
Non seulement le chef de l'État togolais a apparu à la télévision nationale mardi soir, mais a également été vu en compagnie de 2 personnalités. La première, Biza Williams, la sous-secrétaire américaine aux affaires africaines. Arrivée lundi, Madame Williams avait fait savoir qu'elle allait rencontrer notamment des dirigeants politiques togolais et des représentants de la société civile lors de son séjour de 2 jours. À l'agenda également, la remise d'un chèque de 70 millions de francs CFA aux ONG engagées dans le planning familial. À la sortie de son tête-à-tête avec le président togolais, la diplomate américaine a été montrée à la télévision avec un Fornia Singbe arborant un grand sourire. Mahama Nassissé Gouro, qui est à la tête du service Afrique du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, était l'autre personnalité qui s'est rendue au palais présidentiel, une visite dont les images ont aussi été relayées sur le petit écran. Pour les médias togolais, ces audiences, accordées par l'homme fort de Lomé, sont venues mettre un terme aux folles rumeurs sur l'état de santé de Fornia Singbe, qui n'avait pas été vu depuis le 5 juin dernier.
Réapparition de l'Ebola à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. C'est ce qu'annoncent les autorités qui espéraient être débarrassées du virus après 3 semaines sans nouveaux cas. Malheureusement, 3 nouveaux cas ont été recensés dans un bidonville de pêcheurs.
Crise burundaise, le gouvernement est revenu à la table du dialogue politique. Après avoir boycotté la séance la veille, la relance, il faudrait dire, de ces discussions sous l'égide des Nations Unies. Une bonne nouvelle, estime une source proche des médiateurs, citée par l'AFP, regrettant l'absence du parti au pouvoir.
Entre 200 et 300 personnes ont manifesté devant l'ambassade britannique au Rwanda pour protester contre l'arrestation samedi à Londres du chef des services rwandais de renseignement. C'est ce qu'a constaté l'AFP. Le général Emmanuel Karenzi Karake fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne dans le cadre d'une enquête sur les meurtres de 9 ressortissants espagnols au Rwanda entre 1994 et 1997.
République démocratique du Congo. La mission onusienne annonce la neutralisation d'environ un quart des effectifs des forces révolutionnaires patriotiques de l'Ituri. Déclaration qui intervient au sortir de 3 semaines d'offensive contre ces miliciens dans le nord-est du pays. Bilan annoncé, 35 tués, 52 blessés et 36 rendus.
La milice islamiste Chebab a revendiqué aujourd'hui un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Camille Gros-Didier.
Un kamikaze au volant d'un véhicule piégé a percuté une voiture d'escorte d'un convoi de l'ambassade des Émirats Arabes Unis dans la capitale somalienne. L'explosion a coûté la vie à au moins 6 personnes et fait 6 blessés selon les médias. Mais le personnel diplomatique serait indemne. Nous avons visé des délégués ennemis des Émirats Arabes Unis et nous leur avons infligé des dégâts à eux et à leurs forces, a déclaré Cheikh Abdiassis Abou Moussab, porte-parole des opérations militaires du groupe rebelle qui est cité par Reuters. Hussein Afra, un officier somalien, a déclaré que l'attaque visait des instructeurs militaires venus des Émirats arabes unis. Les Chebabs considèrent le gouvernement de ce pays comme étant apostat.
Un envoyé spécial de RFI au Tchad a été expulsé hier soir du pays. D'après Radio France Internationale, Laurent Corot a été interpellé brutalement à N'Djamena alors qu'il dînait à son hôtel en compagnie de Reid Brody, porte-parole de l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Ils auraient tous les deux été giflés lors de l'interpellation.
Retour sur les démêlés d'Omar al-Béchir avec la justice internationale. Le juge sud-africain chargé de statuer sur la venue du président soudanais en Afrique du Sud pour le sommet de l'Union africaine demande l'ouverture de poursuites contre le gouvernement de Jacob Zuma. C'est ce que rapporte l'AFP. Monsieur Béchir, recherché pour génocide par la CPI, a regagné Khartoum, souvenez-vous, malgré l'interdiction de quitter le territoire édictée la veille par le juge.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France dépêche à Washington son coordonnateur du renseignement après les révélations de Wikileaks, selon lesquelles les États-Unis ont espionné les trois derniers présidents français, dont François Hollande. Idrissa Seloudia.
Le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, a dit à la presse que cette visite à Washington vise à confirmer que ses activités d'espionnage sont terminées. Il a ajouté qu'instruction a été donnée cependant aux ministres pour qu'ils fassent attention quand ils utilisent leur téléphone portable. C'est inacceptable et incompréhensible entre alliés. La France n'espionne pas ses alliés, a encore dit M. Foll. L'ambassadeur des États-Unis à Paris a été convoqué hier au bureau du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour discuter du problème. Et selon la présidence française, le président Obama a réaffirmé aujourd'hui par téléphone à son homologue français François Hollande son engagement à en terminer avec des pratiques du passé inacceptables entre alliés en matière d'espionnage. L'échange a été l'occasion d'une mise au point sur les principes qui doivent gouverner les relations entre alliés en matière de renseignement, souligne l'Élysée. Hier, la Maison-Blanche n'a pas répondu directement aux allégations concernant M. Hollande ou ses deux prédécesseurs et s'est contentée de souligner que les États-Unis ne ciblent pas les communications de M. Hollande et ne le feront pas.
Une attaque suicide contre un rassemblement de chefs tribaux sunnites au nord-est de Bagdad a tué 14 personnes aujourd'hui. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique.
Dossier nucléaire iranien, le Conseil des gardiens de la Constitution a donné son feu vert à un texte de loi sur la préservation des acquis nucléaires de l'Iran, ce malgré l'objection des négociateurs du gouvernement. La loi suscite une controverse sur deux points importants. Elle interdit l'accès aux sites militaires et scientifiques iraniens et elle affirme que les sanctions internationales doivent être levées totalement dès que l'Iran commencera à mettre en application l'accord final sur son programme nucléaire. Les puissances mondiales réclament un régime de contrôle des activités nucléaires iraniennes et la levée progressive des sanctions. Selon le porte-parole du Conseil des gardiens, la nouvelle loi est conforme à la constitution iranienne et à la loi islamique.
Les pays chargés d'enquêter sur la catastrophe du Boeing 777 de Malaysia Airlines l'année dernière souhaitent que les responsables soient jugés par un tribunal international. Un projet de résolution devrait être soumis à l'ONU le mois prochain par l'Australie, la Belgique, la Malaisie, les Pays-Bas et l'Ukraine. L'avion abattu en juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine transportait, rappelez-vous, 298 personnes qui ont toutes péri. L'Ukraine et les États-Unis affirment que l'appareil a été abattu par un missile solaire fourni par Moscou aux séparatistes. La Russie, de son côté, a accusé l'armée ukrainienne.
Barack Obama a présenté ce mercredi des aménagements à la politique américaine sur les otages et notamment la mesure la plus emblématique, ne plus menacer de poursuivre en justice les familles qui paieraient des rançons. Nicolas Pinot.
En vertu de cette nouvelle disposition, les familles pourront proposer le paiement d'une rançon sans être menacées de poursuites judiciaires, comme ce fut le cas pour Diane Foley, la mère du journaliste James Foley, décapité en août 2014. Ces familles ont souffert assez et ne devraient pas être ignorées ou victimisées par leur propre gouvernement. C'est pourquoi j'ai demandé une révision de notre politique en matière d'otages, explique Barack Obama. Le projet prévoit aussi la création d'une cellule dédiée basée au siège du FBI. Celle-ci sera chargée de collecter l'ensemble des informations et d'être en contact avec les proches des otages. Ce geste, en direction des familles, ne fait pas l'unanimité car il n'est pas exempt de contradictions. D'abord parce que la loi sur le financement des organisations terroristes reste inchangée. L'administration américaine concède simplement une immunité aux proches des otages. Certains commentateurs voient dans cette exception un désengagement de l'État, car le gouvernement est toujours soumis à l'interdiction de payer lui-même les rançons. À l'heure actuelle, le nombre officiel d'otages américains dans le monde s'élève à 8 selon le Intel Center, une entreprise américaine spécialisée dans le contre-terrorisme.
9 membres de la communauté druze d'Israël ont été arrêtés suite au lynchage lundi soir de 2 blessés syriens et une autre attaque contre une ambulance, selon l'AFP. L'information a été diffusée par la presse israélienne, mais la police ne l'a ni confirmée ni démentie. Un porte-parole s'est contenté de dire que les opérations se poursuivent et que des suspects ont été appréhendés.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
La Fédération des industriels du bois de la RDC, la FIB, accuse des ONG internationales comme Greenpeace et Global Witness d'empêcher le pays d'exploiter ses ressources forestières. En mai dernier, Greenpeace avait appelé au boycottage du bois produit en RDC par l'un des principaux groupes forestiers du pays, l'entreprise à capitaux libanais Cotrefort, accusant celle-ci de maltraiter des employés, de ne pas payer tous ses impôts ou encore de dépasser ses quotas de coupe pour certaines espèces menacées. 40 ans après l'indépendance de l'Angola, le Portugal a vu son paysage économique bouleversé par des investissements massifs venus de son ancienne colonie riche en pétrole. Un nouveau rapport de force incarné par la milliardaire Isabel dos Santos, selon Jorge Costa, co-auteur d'un ouvrage intitulé « Les maîtres angolais du Portugal ». Fille aînée du président angolais José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979, cette femme de 42 ans, surnommée la princesse, détient la 8e fortune d'Afrique. Son patrimoine est estimé à 3 milliards d'euros, dont plus de la moitié serait placée au Portugal pour la mettre à l'abri d'un éventuel changement politique.
C'était la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Et nous allons passer tout de suite à l'actualité sportive. On va parler de football. Pour commencer, football mercato. Samuel Eto'o vers la Turquie. L'ex-international camerounais Samuel Eto'o est sur le point de quitter la Sampdoria pour rejoindre Antalyaspor, promu en première division turque. À 34 ans, Eto'o s'apprête donc à découvrir un nouveau championnat après avoir notamment évolué au FC Barcelone 2004 à 2009, à l'Inter Milan 2009 à 2011, à Chelsea 2013-2014 ou encore à Lanzi Makarkala 2011-2013 en Russie. Il avait rejoint la Sampdoria seulement depuis l'hiver dernier. Tableau des quarts de finale de la Coupe du monde féminine de football au Canada après la fin des huitièmes de finale mardi. Vendredi 26 juin à 20h, Allemagne-France à Montréal. Et à 23h30 au GMT, la Chine rencontre les États-Unis. Match qui se déroulera à Ottawa. Et le lendemain, le samedi 27, à 20h, ce sera l'Australie face au Japon à Edmonton. Et à 23h30, Canada contre l'Angleterre à Vancouver. Tennis, on connaît les têtes de série du tournoi sur gazon de Wimbledon. Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre, et l'Américaine Serena Williams, numéro 1 mondial, ont logiquement été désignés aujourd'hui tête de série numéro 1 du tournoi sur gazon de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem qui débute lundi. Chez les messieurs, le Suisse Roger Federer, finaliste en 2014, et l'Écossais Andy Murray, vainqueur en 2013, seront tête de série numéro 2 et numéro 3, conformément à leur classement ATP. Chez les dames, derrière Serena Williams, quintuple lauréate du tournoi londonien, son dernier titre remonte à 2012, et qui tentera à Wimbledon de décrocher son troisième grand chelem de l'année, et ce sera une joueuse tchèque. Voilà pour les sports préparés aujourd'hui par Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale.
Oui, on va parler des révélations de Wikileaks, Morgane. Révélations selon lesquelles les États-Unis ont placé sous écoute le président français François Hollande et ses deux prédécesseurs. Les États-Unis doivent tout faire pour réparer les dégâts liés à ces révélations, a fait savoir le premier ministre français Manuel Valls. Ici à Washington, l'administration Obama s'est limitée à dire qu'elle ne cible pas les communications du président Hollande et ne le fera pas. En 2013, des révélations similaires concernant les communications de la chancelière allemande Angela Merkel, on se le rappelle, avaient provoqué des tensions entre Berlin et Washington. Timothée Donangmai a rejoint ici à Washington l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
L'espionnage, les écoutes sur les téléphones, sur les messages qui viennent dans l'Internet, c'est quelque chose de très courant depuis longtemps. Et tous les gouvernements font ça s'ils ont la capacité dans la technologie. Bien sûr, si ça devient public, le gouvernement français ou allemand doit protester. Mais je crois que ce n'est pas très sérieux. Tout le monde fait ça. Par exemple, à l'ambassade de France aux États-Unis, il y a des attachés scientifiques qui circulent dans les industries américaines pour chercher les secrets technologiques. Donc, je ne crois pas que c'est une chose très grave.
Donc, on s'espionne même entre amis?
Oui, c'est fait. Il y a des amis, bon, on doit voir si les amis sont fidèles, n'est-ce pas?
Alors, on sait que les États-Unis et la France ont des relations très étroites en matière de renseignement, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Alors, quel sera l'impact de cette affaire sur ces relations?
Je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Vous avez raison, les relations dans les renseignements sont très étroites. Et il y a des gens de renseignements français qui sont ici à Washington et vice-versa. Il y a des Américains de la CIA qui sont à Paris. Et il y a des échanges tous les jours. Et je n'ai pas l'impression que rien va changer. Bien sûr, il faut protester une fois que quelque chose devient public, mais ce n'est pas grave.
C'est un rituel convenu quand il y a ce genre de révélation qu'il faut protester.
Il faut protester, bien sûr, pour la public.
Mais vous ne voyez pas de conséquences à long terme de cette affaire?
Non, je ne vois pas de conséquences à long terme.
Voilà, l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, joint par Timothée Donangmai ici à Washington.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, la tuerie de Charleston qui ravive aux États-Unis nombre de débats. La question raciale a-t-elle évolué depuis l'arrivée du président Obama? Est-il temps de prohiber le drapeau confédéré, symbole de l'oppression des Africains américains? Et pourquoi, en dépit de la multiplication de tragédies, la loi sur les armes ne change pas? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Sénégal, crise au sein du PDS, parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. On y signale scission et fronde. Souleymane Déné Ndiaye, le dernier premier ministre de M. Wade, a créé son propre parti et annoncé sa candidature à la présidentielle prévue en 2017. Le PDS avait déjà choisi le fils du président, Karim Wade, comme son candidat officiel, mais ce dernier est toujours en prison. Pour éviter au parti de se retrouver sans candidat, en 2017, un de ses leaders, Modou Diagne Fada, a exigé la démission de l'ex-président de son poste de secrétaire général national du PDS, ce qui lui permettrait de briguer lui-même ce poste et se positionner ainsi en 2017. Mais l'ancien président refuse et entend garder le secrétariat général national jusqu'à 2017. Idrissa Seydoudia.
Pour faire le point, j'ai contacté l'éditorialiste du site Séné+, Salut Gay, ainsi que le porte-parole même du PDS, M. Babacar Gay. Pour notre confrère Gay, la simple explication est que M. Ouad n'a pas renoncé à son vieux projet de dévolution monarchique du pouvoir.
Effectivement, les gens parlaient pendant le règne de Abdoulaye Wade de la dévolution monarchique du pouvoir. Maintenant, dans toujours Abdoulaye Wade est dans cette même logique-là de dévolution monarchique aussi aujourd'hui du parti. Parce que l'aberration, c'est quoi? Aujourd'hui, Karim Wade se trouve en prison. Comment se fait-il que quelqu'un se trouve en prison et qu'on fasse même des primaires au sein du parti et que ce même candidat, c'est-à-dire ce détenu-là, devient le candidat officiel du parti? Donc déjà, il y a eu même vice de forme, c'est-à-dire on a torpillé les textes pour imposer Karim Wade comme étant le candidat officiel du parti.
Salut Gay, éditorialiste du site Séné+. Quant au porte-parole du PDS, M. Babacar Gay, il s'inscrit en faux contre cette analyse des faits au sein de son parti. C'est lui-même qui avait eu l'initiative de proposer la candidature de Karim Wade face à un régime revanchard, a-t-il dit, et c'est le bureau politique du PDS réuni en congrès qui a décidé de maintenir Abdoulaye Wade au secrétariat général national du parti jusqu'à l'élection de 2017. Et puis, le PDS a accepté maintenant de procéder à des réformes et il a été lui-même nommé secrétaire national chargé de l'orientation, des stratégies et des réformes. Monsieur Gaye.
Le parti décide en toute liberté, en toute démocratie, de garder M. Wade jusqu'à l'élection présidentielle. Parce que nous estimons que nous avons encore besoin de lui. C'est nous, c'est pas lui.
Mais est-ce à dire, Monsieur Gay, quand on voit que son dernier Premier ministre a décidé de former son propre parti et de se présenter à la présidentielle, que le parti arrive à sa fin en quelque sorte et que sans Wade, le parti ne va pas survivre?
Cette dynamique, nouvelle dynamique, certainement, le parti aurait disparu après Abdoulaye Wade. Nous en sommes conscients, c'est pourquoi nous voulons le garder. Que son ancien Premier ministre sorte de nos rangs pour aller à la présidentielle de 2017, c'est son droit le plus absolu. Mais considérez quand même que ce n'est pas parce qu'on a été ancien Premier ministre qu'on a un projet politique ou qu'on peut avoir un rendez-vous concluant avec le peuple sénégalais.
Bah, on peut parler de Macky Sall. Macky Sall était aussi ancien Premier ministre de Wade.
Et ce qu'il faut retenir de manière scientifique est que d'ici 20 ans encore, ou d'ici 30 ans, celui ceux qui sont issus des rangs du Parti démocratique sénégalais, donc les disciples de Maître Abdoulaye vont compétir pour la présidence de la République. Je pense que ça aussi, c'est un mérite personnel de l'homme. C'est aussi la qualité de notre parti et que nous ayons sécrété autant de cadres de haut niveau.
Babacar Gaye, porte-parole du PDS, le parti de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le gouvernement de transition au Burkina Faso doit concentrer tous ses efforts sur les élections d'octobre, estime l'International Crisis Group dans un nouveau rapport. L'ONG s'inquiète du fait que dans un contexte marqué par des tensions politiques et une forte agitation sociale, des représentants de l'ancien pouvoir soient exclus des prochains scrutins, ce qui ouvrirait la porte à d'interminables arguties juridiques et menace le respect du calendrier électoral, souligne-t-elle. Pour plus de précision, Camille Gros-Didier a joint à Dakar Cynthia Owayon, chargée de l'Afrique de l'Ouest à l'International Crisis Group.
Il y a un nouveau code électoral en fait qui a été voté en avril et ce code prévoit que sont exclus des prochaines élections tous ceux qui ont soutenu la révision constitutionnelle qui visait à autoriser le président Blaise Compaoré à briguer un autre mandat. Donc ce code électoral, même s'il est un peu flou, est très ambigu et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont il va être appliqué. Il vise à exclure en fait les anciens soutiens du président Compaoré, donc la classe politique dirigeante sous l'ancien régime. Et donc ce qui est dangereux un petit peu, c'est ce risque de les exclure, de ne pas leur permettre de s'exprimer dans les urnes et ça risquerait de les pousser vers des stratégies extra-électorales de contestation, voire de déstabilisation ou de sabotage du processus électoral. Donc c'est une menace qui pèse de manière incertaine, mais qui pèse sur les élections.
Dans votre rapport, vous notez que le gouvernement burkinabé de transition est pris au piège de ses propres errements. Qu'est-ce que vous disiez par là ?
Effectivement, en fait, le gouvernement, quand il a été mis en place, ça s'est fait dans un contexte un petit peu d'euphorie post-révolutionnaire où on ne pensait pas que la chute de Compaoré était possible. Donc, il y a eu énormément d'attentes populaires qui se sont accumulées autour de la mise en place de ce gouvernement. Et le gouvernement a fait énormément de promesses, donc notamment le Premier ministre Isaac Sida, qui est issu de la garde présidentielle de Compaoré, a fait beaucoup de promesses. Il a par exemple promis justement qu'il allait dissoudre cette garde présidentielle, qu'on appelle le RSP, le Régiment de Sécurité Présidentielle. Et on a vu assez rapidement, début février, il y a eu une sorte de mini-crise politique. On a vu qu'il n'avait pas du tout la marge de manœuvre qu'il pensait avoir, ou du moins qu'il disait qu'il avait. Il a été d'ailleurs assez rapidement obligé de reculer, puisqu'il a récemment dit que le RSP ne serait pas dissous, etc. Il y a aussi beaucoup d'attentes au niveau économique, social, des demandes de justice pour tous les crimes qui ont été commis. Et le gouvernement a fait beaucoup de promesses, et il est évidemment incapable de tenir toutes ces promesses. On est dans un contexte de crise budgétaire.
Justement, quelles sont certaines des recommandations donc du rapport de l'International Crisis Group ?
Oui, voilà. Alors, il y a deux, trois éléments peut-être qui seraient importants de souligner. En fait, le risque principal de ce code électoral dont j'ai parlé au début est qu'il est assez flou et qu'il va laisser une grande marge d'interprétation au Conseil constitutionnel. Ce que le gouvernement pourrait faire pour le préciser serait par exemple de publier un décret pour préciser quels seront les critères qui seront utilisés pour déterminer qui a soutenu ou pas la révision constitutionnelle. Ce qu'on espère, c'est que le code électoral sera appliqué de manière suffisamment restreinte pour ne pas exclure trop de monde. Et donc, il y aura une sorte de modération à ce niveau-là. Autre chose aussi qu'on recommande aux acteurs politiques et de la société civile burkinabé serait de considérer d'ouvrir un dialogue politique le plus formel possible.
On écoutait Cynthia Ouayon, chargée de l'Afrique de l'Ouest à l'International Crisis Group. Le Monde aujourd'hui.
Et Joseph Kabila sonne la charge contre la corruption. La plainte a été déposée par Luzolo Bambi, conseiller spécial du président congolais en matière de bonne gouvernance. La RDC occupe la 154e place de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Nicolas Pinault a joint Ernest Pararo, président de la LICOCO, la Ligue congolaise contre la corruption.
Sur la plainte, effectivement, de la présidence, il y a plus ou moins une vingtaine de cas. Et ces vingtaines de cas impliquent à peu près 50 personnes. Et la plupart des cas sont répertoriés de la manière suivante. Il y a des cas d'importation frauduleuse des billets de banque en devises étrangères, ou ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Et il y a le deuxième cas, c'est le transfert fraudulé des fonds, comme on appelle le flux de capitaux. Et sur ce cas, il y a des sociétés privées qui sont impliquées. Il y a des personnes privées qui sont impliquées et des personnes publiques, c'est-à-dire les autorités publiques. Le troisième cas des dossiers qui ont été déposés, il y a des dossiers de fraude douanière qui impliquent les agences en douane, les responsables des douanes et certains responsables des services d'impôt. Et le quatrième cas, c'est des cas de détournement des données publiques et de corruption. Et cela implique des fonctionnaires de l'État et des personnalités politiques et privées. Donc nous pensons que d'ici demain ou dans les deux jours qui suivent, nous devons voir le procureur général de la République interpeller toutes ces personnes-là pour que les enquêtes continuent très bien.
Est-ce que vous pensez que cette démarche est sincère quand on sait que la République démocratique du Congo est classée 154e sur 175 pays à l'indice de perception de la corruption de Transparency International ?
Il n'est jamais tard pour faire du bien. Nous pensons que comme c'est la fin du mandat de Kabila et comme il peut partir, il ne veut pas partir seul. Nous estimons que le fait qu'il ouvre déjà ce genre de dossier, c'est quelque chose de positif déjà. Parce qu'il y a 30 ans, nous n'avons jamais vu cela.
Est-ce que vous pensez que cette procédure ira au bout ?
Effectivement, comme c'est le chef de l'État lui-même qui porte plainte, nous sommes sûrs et certains que les magistrats auront peur et les juges auront peur de prendre de la corruption pour mettre de côté les dossiers. Donc nous espérons effectivement, notre organisation va suivre toute la procédure au niveau du parquet général. Nous allons suivre toute la procédure au niveau des cours et tribunaux pour que effectivement les coupables soient punis et sanctionnés conformément à la loi.
Ernest Pararo, président de la Ligue congolaise contre la corruption.
Joselle Morissin a dirigé la production. C'est la fin de cette édition. Bonsoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.